Les conférences du Collège de France.
Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette conférence spéciale de la professeure Sayaka Oki de l'Université de Tokyo, qui nous avons pu inviter grâce à l'échange avec Tokyo College. Sayaka Oki est professeure d'histoire des sciences et de l'éducation à l'Université de Tokyo, au Japon. Elle est membre du groupe d'experts sur la promotion de l'intégrité de la recherche du ministère de l'Éducation, de la culture, des sports, de la science et de la technologie du Japon depuis 2020 et membre associé du Conseil scientifique du Japon depuis 2014. Depuis 2022, et certains d'entre vous le savent peut-être dans cette salle, elle est aussi membre du Conseil scientifique international, dont elle siège au Comité permanent pour la liberté et la responsabilité dans la science. Et c'est dans ce cadre-là, à travers ses travaux contemporains, disons, sur la liberté académique et l'intégrité scientifique que nous nous sommes rencontrés. Ses principaux intérêts de recherche concernent l'histoire intellectuelle de la liberté académique et de l'histoire socio-économique des institutions académiques scientifiques en Europe. Et récemment, elle a élargi son champ de recherche à l'étude de l'influence de la politique d'innovation sur la liberté de recherche et la liberté académique de manière comparée. Ce dont nous entendrons parler ce soir. Et elle fait tout un travail aussi, il faut le souligner, sur l'inclusion des minorités dans les domaines académiques au Japon et ailleurs dans le monde. C'est devenu l'une de ses préoccupations contemporaines. Alors, la conférence qu'elle nous propose ce soir porte, vous le voyez à l'écran, sur l'institutionnalisation française de la liberté académique et sa diffusion, réception, en Asie à l'époque moderne. C'est un thème qui permet à Sayaka Oki de croiser tous ses savoirs et toutes ses expertises. Donc je suis très heureuse qu'elle ait choisi ce thème pour cette conférence ce soir. Un grand merci, Sayaka, d'avoir fait le voyage de Tokyo jusqu'à Paris, d'avoir accepté notre invitation et puis surtout d'avoir accepté de nous parler en français. Tu as appris le français brillamment ici, à Paris notamment, pendant tes études. Mais c'est tout un travail, on le sait, de préparer une conférence en français. Donc merci infiniment et je me réjouis de t'écouter. Merci. Ah, je dois encore dire une chose, désolée, excusez ma négligence. Sayaka Oki ne prendra pas de questions en public tout à l'heure, mais elle en prendra volontiers en privé. Donc n'hésitez pas à venir lui poser des questions après la conférence, quand elle sera terminée. Merci beaucoup et bonne conférence.
Merci. Merci beaucoup. Bon, tout d'abord, vraiment, je tiens à remercier encore une fois à la professeure Samantha Béton et tous ses collègues organisatrices qui m'ont offert cette merveilleuse rencontre au Collège de France. Je remercie aussi tous qui sont dans la salle pour la participation. Merci beaucoup pour votre participation. Et bah, je remercie aussi la présence de mes amis et collègues que j'ai connus depuis longtemps. Ça me fait vraiment un grand plaisir. Et aujourd'hui, je parle de l'institutionnalisation de la liberté académique. Je m'explique d'abord ce que je signifie par cette expression. Bah, juridiquement, le contenu de la liberté académique se compose des deux éléments, si je comprends bien. C'est la liberté académique individuelle et la liberté académique institutionnelle. Et la première signifie en principe le droit d'individu et la deuxième, la dernière, concerne plutôt l'autonomie des institutions savantes, surtout par rapport au gouvernement ou aux autres forces sociales, par exemple la religion, etc. Et cette autonomie est nécessaire pour garantir la première, c'est-à-dire la liberté académique individuelle. Et selon l'histoire de la jurisprudence, bon, je ne suis pas du tout spécialiste, il est bien connu que la légalisation de la liberté académique a pris la forme dans la Constitution prussienne en 1850, au milieu du 19e siècle. Et il est aussi connu que la théorisation de la liberté académique institutionnelle commence assez tardivement dans les années 1920 ou un peu plus tard, dans l'interprétation juridique de la Constitution de Weimar. Et donc, ainsi, les discussions sur le contenu de la liberté académique associent traditionnellement plutôt le problème du statut des universitaires Et l'histoire juridique puise ses sources souvent dans l'histoire des universités, et notamment celles germanophones ou anglophones, comme les deux livres montrés ici. Cependant, aujourd'hui, en tant qu'historien de sciences, je voudrais proposer un autre angle d'approche sur ce sujet. Et c'est l'histoire sociale des académies et sociétés savantes du XVIIe au XIXe siècle, et surtout pour tracer l'histoire de la mise en pratique de la liberté académique institutionnelle. Donc, puisque je ne suis pas juriste, donc je m'intéresse plutôt aux pratiques qu'au contenu de la loi. Donc les académies, notamment les académies des sciences, ont été depuis longtemps en histoire des sciences l'objet des études en ce qui concerne le processus de la professionnalisation des sciences à l'époque moderne. Mon objectif est de montrer que l'histoire des académies et des sociétés savantes, en particulier celle de la France, constitue un point de repère enrichissant pour comprendre les deux points suivants marqués ici. D'abord, les tentatives de la mise en pratique de la liberté académique institutionnelle avant sa légalisation et sa transmission, à diffusion à l'échelle mondiale, même aux endroits où la haute éducation ne s'associait pas nécessairement avec la liberté académique, comme c'était le cas au Japon. Et tout brièvement, je me permets de présenter les éléments qui m'ont inspiré ce sujet. Bon, j'ai longtemps travaillé en fait sur l'histoire des académies des sciences, notamment l'Académie royale des sciences de Paris du XVIIIe siècle. Mais c'est la crise actuelle de la liberté académique à l'échelle mondiale qui a attiré mes attentions. D'abord, surtout avec la montée de l'autoritarisme politique. Par exemple, selon l'Academic Freedom Index, notre niveau de liberté académique est revenu en fait à celui de l'époque de la guerre froide. Par exemple, c'est la figure ici. Et, en plus, un événement m'a surtout marqué. C'est un peu personnel, mais en 2020, le premier ministre japonais à l'époque, Suga, a refusé la nomination des académiciens élus par une de nos académies nationales, Science Council, Gakujutsu Kaigi en japonais, et sans expliquer la raison de cette décision. La rumeur dit qu'ils avaient été, ils aient été rejetés en raison de leurs convictions politiques, mais on ne sait pas vraiment la raison. Bah, j'ai été choquée par cette histoire. Et j'ai commencé à me renseigner sur l'histoire des académies de mon pays. Dans les débats politiques et ma propre enquête, j'ai rencontré les éléments en fait, qui combinent la France et le Japon, comme je vais montrer un peu plus tard. Et cette académie en question utilisait l'expression souvent Parlement des savants, Gakusha no Kokai en japonais, pour décrire son autonomie et son état d'esprit. Donc l'académie qui était un peu attaquée. Mais dans les controverses politiques au Japon qui ont suivi et continuent encore de nos jours, cette expression est citée souvent avec le temps au négatif, au même ridiculisant. C'est-à-dire que le Parlement des savants, ce n'est pas possible, et cette institution ne représente pas la communauté de chercheurs, etc. Mais personne ne semble bien savoir l'origine de cette expression, tandis que moi, et comme peut-être vous, je sais très bien. Cette expression provient de la Révolution française. L'Institut de France, par exemple, on sait bien que l'Institut de France fut créé et voulu comme le Parlement des savants, comme les historiens le décrivent. Et la conception de cette expression remonte jusqu'au débat pendant la Révolution autour de la loi sur l'organisation de l'instruction publique adoptée le 3 Brumaire en 4, c'est-à-dire le 25 octobre 1795. Et Pierre Donou a dit à la séance du 19 octobre, je cite, nous avons emprunté de Talleyrand et Condorcet et le plan d'un institut national, et ce sera quelque sorte l'abrégé du monde savant, le corps représentatif de la République des lettres. À travers cette expression, on constate un fil qui noue l'Institut national, Académie régénérée à partir des anciennes Académies royales, et cette Académie nationale de Japon de nos jours. Ce projet de Condorcet évoqué par Donou représente en fait, à mon avis, une des formes plus pures de ce que l'on pourrait appeler la liberté académique institutionnelle. Il y a en fait beaucoup de, il y a des différentes interprétations dans cette notion, mais j'essaie de dire ça. Et dans son projet, dans le projet de Condorcet proposé au comité de l'instruction publique à la Révolution, il envisageait une grande société nationale dotée d'une autonomie totale dans le choix de ses membres et d'un financement public garantissant des activités savantes libres. Et ce modèle se distançait, était un peu différent, par exemple, de celui de la Société royale de Londres. En fait, dans les pays anglo-saxons, les académies et les sociétés savantes sont souvent financées par eux-mêmes, autofinancées, et donc du coup considérées pour être indépendantes. Mais cependant, dans le projet de Condorcet, l'indépendance d'une académie n'était pas associée à l'autofinancement. Tous ces éléments m'ont amené à un peu reconsidérer l'histoire sociale des académies en examinant de près la diffusion de ces pratiques. Par exemple, ces pratiques liées à la liberté académique institutionnelle à l'échelle mondiale du XVIIe au XIXe siècle. Donc aujourd'hui, je vous présente donc une partie de ce travail qui est encore en cours, qui a juste commencé en fait. Et ce qui suscite mon intérêt, surtout, ce sont les aspects très concrets de la liberté, aspects concrets liés à la liberté institutionnelle des académies. Donc c'est l'élection et le financement. C'est-à-dire que la capacité de choisir ses membres sans ingérence gouvernementale, de forces extérieures, ainsi que le niveau de la facilité pour obtenir un financement de l'État permettant des activités autonomes et stables. Et la conférence se divise en trois parties, en traitant des périodes différentes. D'abord, l'Ancien Régime de la France, en France, les Académies royales de France et en France, et puis le 19e siècle, mais encore en France, et puis l'expansion des réseaux académiques hors l'Occident, c'est-à-dire un peu la dernière moitié du 19e siècle. Ok, donc la première partie. Bon, en fait, je sais que certains de vous sont plus experts que moi, mais quand même, je vous propose cette page pour ceux qui ne sont pas au courant des domaines des académies royales de ce l'Ancien Régime. Et donc voilà, il y a plusieurs académies. Et je parle surtout des droits à institution en police gras parce qu'il s'agit de la liberté académique, pas liberté et de l'expression en général. Et Paul Ménard, historien au 19e siècle, il décrit en 1857 le début de l'histoire de l'Académie française. Et donc, je cite, l'élection, l'égalité et l'indépendance, une loi faite par eux-mêmes. Voilà donc ce que Richelieu donna sur le champ aux écrivains réunis par lui en une société publique et autorisée. Fin de citation. Selon sa description, les membres se sont organisés en toute indépendance des intentions du roi ou de Richelieu, protecteur. et ils ont fait leur règlement. Bien sûr que la réalité de cette spontanéité décrite semble être un peu discutable. Peut-être que ce n'est pas tout à fait vrai, comme Hélène Merlin-Caiman le suggère dans son livre au début de ce siècle. Cependant, il est probablement vrai qu'à l'époque, la cour voulait conquérir la réputation, c'est-à-dire que dans le contexte d'une crise politique profonde, la volonté du pouvoir royal devait consister en la création d'une institution symbolisant la République des lettres pour mettre en scène un peu la réconciliation, ou sinon pour un peu avoir une bonne réputation. Ainsi, dès le début, ces lettres patentes, les lettres patentes de l'Académie française et son règlement définissent strictement un système dans lequel tous les membres sont égaux et élus par eux-mêmes. Et ce modèle deviendra la référence pour les générations postérieures. Et l'Académie française fut légalement enregistrée au Parlement en 1637 pour, selon Pélisson et d'Olivet au XVIIe siècle, c'est pour faire un corps et s'assembler régulièrement et sous une autorité publique. Mais contrairement à ce qu'on peut imaginer aujourd'hui à partir de l'expression publique, les membres académiciens ne recevaient pourtant aucun revenu du pouvoir royal. Selon l'interprétation de Pélisson et d'Olivet, toujours, qui est un principe favorable à l'intention de Richelieu, le pouvoir royal ne lui a pas accordé des pensions royales parce que les membres se rassemblaient uniquement pour la littérature, etc. C'est-à-dire qu'il est possible qu'à l'époque, le pouvoir royal voulait éviter la réputation de donner de l'argent aux lettrés pour qu'il écrive des textes favorables à la cour. Donc les membres académiciens ne recevaient aucune rémunération officielle de la part de l'Académie française, excepté d'une petite récompense comme des jetons de présence pour montrer son attitude dévouée aux lettres. Mais en même temps, certains de ces membres recevaient personnellement une pension, un revenu, de la part d'un ministre, d'un grand noble, par peut-être pour le rapport de clientèle, peut-être. Et, en fait, puisque les membres n'étaient pas tout riches, donc Richelieu lui-même continuait à verser des pensions plusieurs membres de l'Académie française, c'est très bien connu. Mais en même temps, il est aussi vrai que c'est difficile de maintenir la motivation et la productivité de travail si en fait tout était gratuit. C'est-à-dire que, par exemple, l'Académie française a mis plus de 60 ans pour produire son premier dictionnaire, donc c'est très bien connu. Et il semble que Louis XIV et ses ministres, par exemple Colbert, n'appréciaient pas vraiment nécessairement cette situation. Donc il semble qu'ils pensaient plutôt à augmenter la productivité, si je peux dire comme ça, en versant des pensions à leurs membres revenus modestes. Et cependant, l'Académie française n'a pas accepté. Et Voltaire le décrit comme celui-ci un peu plus tard, donc je ne sais pas si c'est vraiment fidèle à ce qui s'est passé, mais en tout cas dans les années 1760, Voltaire, le philosophe, décrit que les membres les plus modestes académiciens ont rejeté telle proposition, préférant la liberté et l'égalité et l'honneur à des pensions. Et il considère que le soutien financier des monarques et la liberté sont difficilement conciliables quand il associe l'Académie française avec la Société royale de Londres comme un peu un symbole de liberté. Et là, comme j'ai dit tout à l'heure, la dernière était reconnue par le roi anglais en 1760 en tant qu'une association indépendante. Et elle était, comme j'ai dit tout à l'heure, autofinancée avec des dons et des cotisations depuis le début de son histoire. Et la situation n'était pas la même pour les académies des sciences et l'académie des inscriptions et belles-lettres, fondée dans les années, sous le régime de Louis XIV, par l'initiative de Colbert. Et elle recevait le règlement respectivement en 1699 et 1701. Et elles ont accepté la structure hiérarchique dans laquelle les honoraires se posent comme classe de tutelle sur les membres ordinaires. Et chaque membre recevait une pension environ 1500 à 3000. Chaque membre, je veux dire, les pensionnaires, en termes exacts. Ils ont reçu des pensions en échange de la diligence et de l'assiduité au travail pour l'académie. Et pour notre intérêt, il faut noter la différence entre l'Académie française et ses deux académies à l'égard de l'élection des membres. En effet, le registre de l'Académie des inscriptions et le registre de l'Académie des inscriptions et des belles-lettres cite une lettre par le comte de Pontchartrain qui témoigne la réticence de la part de Louis XIV à accorder à l'Académie des inscriptions à la liberté d'élire ses propres membres. C'est-à-dire que Louis XIV n'oubliait pas, c'est un peu ambigu, mais il n'appréciait pas vraiment ce qui se passe dans l'élection de cette académie. Mais en tout cas, ce genre de message, un peu, ça existait. Et la procédure d'élection lui-même était différente entre des académies. En fait, l'Académie française avait quand même plus de liberté que les deux autres, même si son règlement dit que, je cite, « Personne ne sera reçu dans l'Académie qui ne soit agréable à Monseigneur le Protecteur. » Fin de citation. Bon, mais il semble que une fois qu'une personne a été élue, cette personne était enregistrée en tant que telle, pour le cas de l'Académie française. Autant que j'ai lu les règlements, il semble que c'était comme ça. Mais en revanche, l'Académie des inscriptions et des belles-lettres et celle des sciences doivent choisir deux ou trois candidats à chaque élection, selon le critère de la place, c'est-à-dire selon la place qui a été proposée. Et en fait, donc, plusieurs personnes ont été élues et c'est le roi qui pouvait en choisir un favori. Ainsi, le veto royal était imposé et au choix de ces deux académies jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Mais en même temps, je souligne que c'était quand même rare le rejet des candidats par les rois. En fait, il n'y a presque pas de refus pendant pendant la deuxième moitié du XVIIIe siècle, comme les plusieurs études historiques le signalent. Et je peux aussi dire une chose, en fait, ces deux académies étaient moins libres, mais attiraient plus d'investissements de la part du pouvoir royal. Et c'est surtout le cas pour l'Académie des sciences, à mon avis. Et en fait, j'ai un peu reconstruit leur revenu pendant le XVIIIe siècle, mais avec pas mal de lacunes, en fait, pendant la première moitié du XVIIIe siècle, c'est mon travail. Et aussi, pour le XVIIe siècle, Alice Throop a beaucoup travaillé et aussi il y a beaucoup d'excellents travaux faits sur cette académie. Et à mon avis, les deux éléments semblent contribuer à ce progrès de l'échelle de revenus. Premièrement, dans l'Académie des sciences était composée des membres plutôt pauvres. C'est-à-dire, cette académie a recueilli plus nombreux de roturiers. Et c'est-à-dire que ces membres n'avaient pas de bons emplois secondaires. C'est-à-dire que, par exemple, les académiciens de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, selon Chantal Grêle, ils avaient des emplois secondaires plutôt assez bien rémunérés. C'est-à-dire, par exemple, la place de bibliothécaire dans la bibliothèque royale, sinon précepteur d'une famille aristocratique. C'est-à-dire que cette classe sociale, c'est la différence de ce genre, un peu influencé le degré de pauvreté de chaque membre. Et deuxièmement, il faut aussi compter le fait que les activités pour les sciences naturelles, telles que l'observation et l'expérimentation, nécessitent l'investissement à l'échelle considérable. Donc Colbert était vraiment conscient et il attribua à l'Académie un budget assez considérable. Et puis, donc du coup, avec ces deux conditions, les membres de l'Académie des sciences étaient certes financièrement le plus dépendants de l'État, mais du coup ils ont négocié le plus activement et ils ont réussi à attirer le financement. Et certains membres comme par exemple Pont d'Arcy et d'Alembert n'oubliaient jamais de réclamer ils ont réclamé beaucoup de choses. Ils ont réclamé l'égalité avec l'Académie française au niveau du droit accordé par le règlement. Mais ils ont aussi bien sollicité le revenu stable du paiement, des pensions, etc. Mais c'est comme le dernier volume du groupe de comité d'Alembert, on peut se renseigner bien sur ce sujet. Et l'Académie des sciences était donc devenue l'institution disposant du budget le plus important pour la recherche et les pensions, parmi les trois académies que j'ai mentionnées, qui étaient sous la tutelle du même ministre, c'est la ministre de la Maison du Roi. Mais en même temps, je peux aussi dire que la perception sur la rémunération évoluait. Et il paraît que au cours des années 1780, par exemple, recevoir de l'argent pour les sciences, pour la littérature, n'était plus problématique. Par exemple, le contrôleur général des finances, Calonne, il s'étonna du fait que les membres de l'Académie française ne bénéficiaient pas de pensions. Et au moment de la Révolution, encore plus tard, Lavoisier, fameux chimiste et académicien, il avance que les académiciens reçoivent la rémunération pour, je cite, des fonctions libres, fonctions qui ne sont imposées par personne. Donc, comme j'ai marqué les lignes rouges. Donc, je passe vite à la deuxième partie. Bon. Avec la Révolution et en l'absence de l'autorité royale comme auparavant, le moment est venu pour se demander sérieusement qui est à même intervenir dans les institutions académiques et dans quelle mesure, à quel niveau. Et l'opinion publique était loin d'être unanime sur ce sujet. Et par exemple, moi, je n'ai pas beaucoup de temps pour présenter. Il y a vraiment beaucoup de travail sur ce sujet. Il y a vraiment richesse, mais je peux être très brève. Le projet proposé par Mirabeau, publié après sa mort en 1791, son plan explique bien le point de vue d'un homme politique. tout en respectant une autonomie savante de certains degrés. Il s'efforce, Mirabeau s'efforce de prendre des mesures pour éviter que les académies deviennent des groupes politiquement indépendants. Surtout pour ne pas être contre-révolutionnaire. Donc du coup, il décentralise l'administration des académies en la chargeant aux départements régionaux. C'est-à-dire, par exemple, pour une académie parisienne, c'est la ville de Paris qui s'en occupe, ce n'est pas l'État. Et pour le choix de leurs membres, c'est intéressant pour moi, Mirabeau supprime le droit de veto royal, donc c'est bien, mais il introduit l'étape qui permet l'intervention de l'opinion publique régionale. Donc les membres élus, dans son projet, les membres élus par une académie doivent être présentés au commissaire nommé par le département où cette académie se situe. Et donc il y a plusieurs choses, plusieurs mesures dans cette direction-là. Bon, je ne parle pas beaucoup sur le projet de Talleyrand, juste je souligne, parce qu'il a beaucoup de points en commun avec Condorcet. Bon, son originalité était l'utilisation de l'expression « l'Institut national », mais bon. Et le projet de Condorcet, cela se distingue par rapport aux autres dans son attachement au haut degré de l'indépendance de sa gestion, l'indépendance de l'Académie. Ce projet a été présenté en avril 1792 et il est bien connu dans l'histoire de l'éducation par ses idées sur la gratuité et l'obligation de l'instruction publique. Et il propose surtout une Société nationale des sciences et des arts qui réunit toutes les académies royales et destinée à surveiller et diriger les établissements d'instruction, s'occuper du perfectionnement des sciences et des arts, recueillir, encourager, appliquer et répandre les connaissances utiles. Fin de citation. Et ses membres seront donc tous fonctionnaires et se choisiront eux-mêmes. Et selon lui, la société a même le droit de choisir les professeurs du lycée et donc de l'éducation secondaire sans aucune intervention par l'extérieur. Donc oui, c'était vraiment une institution puissante qui était conçue. Nous savons bien que les débats survenus au moment de la période de la terreur sont allés à l'encontre du projet de Condorcet, jusqu'à revendiquer l'élimination des académies. Bon, je n'entre pas dans les détails dans cette période et juste je passe donc à l'an 1795. Donc, c'est enfin à l'époque thermidorienne que le projet de Condorcet avec celui de Talleyrand est devenu les références pour élaborer le système d'instruction publique. Et Dondou présenta donc son rapport en 1795, dont l'Institut national fut fondé ainsi avec les trois classes, comme vous voyez ici, donc sciences physiques et mathématiques et sciences morales et politiques, qui étaient la nouveauté à l'époque. C'est un peu économie politique, sciences sociales de nos jours. Et troisième, littérature et beaux-arts. Et ses membres devenaient des fonctionnaires conformément à l'idée de Condorcet et recevait donc la rémunération à chacun. Cependant, le début de son histoire se caractérise par la difficulté de la mise en pratique de cet idéal révolutionnaire, c'est-à-dire une grande académie indépendante. Même le mode de scrutin pour élire, donc c'est mon obsession, donc je répète ça. Donc même le mode de scrutin pour élire un membre n'avait pas de consensus facile. En fait, suivant la proposition de Dondou, l'Institut avait en fait introduit le système Borda, la méthode Borda. Borda est mathématicien reconnu de nos jours comme un des précurseurs de la théorie du choix rationnel, comme Condorcet. Et cette méthode, c'était efficace pour éviter le paradoxe du scrutin, et notamment cycle des préférences, c'est-à-dire qu'on ne décide pas vraiment qui est la prioritaire. Donc, cette méthode consiste de classement de tous les candidats dans la liste par chaque bouton. C'est-à-dire que si vous avez par exemple 10 candidats, vous mettez un point au dernier que vous souhaitez, et 2 points pour le 9e que vous souhaitez. Et comme ça, chaque candidat a une note, c'est-à-dire. Et on calcule tous les bulletins de vote et puis on aura le résultat. Donc c'est très compliqué, mais c'est très scientifique. Mais à l'époque, c'était difficile parce que on peut tricher facilement avec cette méthode. Par exemple, on distribue un bulletin en papier à chacun et avec la liste de 10 personnes. Si on coupe la moitié de cette liste, vous comprenez, le papier en moitié, et seulement 5 membres apparaissent dans le papier. Donc ce genre de acte était possible. Donc du coup, par conséquent, par sa susceptibilité aux abus, cette méthode, ce système était vivement critiqué par Napoléon Bonaparte au moment de son propre élection comme membre dans la première classe, la classe des sciences physiques et mathématiques. Et 2 ans après, il est devenu non seulement le premier consul, en tant que membre, mais en tant que le dirigeant de pays en même temps, il a entamé une réforme. Il proposa une commission pour vérifier si la réforme est nécessaire pour le mode de scrutin. Et en 1803, l'Institut renonça au système Borda avec un nouveau règlement qui fait retourner partiellement des pratiques sous l'ancien régime. Et désormais, c'est le chef du gouvernement qui doit sanctionner les choix et juger leur convenance politique, c'est-à-dire qui approuve le candidat de chaque élection. Et la réforme en 1803 est notoire aussi par la suppression de la 2e classe des sciences morales et politiques, connue en tant qu'un bastion des idéologues tels que Volney, Cabanis, Guerra, etc. C'est connu en histoire. C'est-à-dire qu'il a essayé de faire disperser les savants qui s'intéressaient un peu à la politique, qui savaient un peu faire la proposition. Avec des propositions libérales. C'est-à-dire que Napoléon ne voulait pas cette sermon politique, et donc il a fait disperser ses membres entre les nouvelles classes établies comme littérature, anciens, etc. Mais une exclusion plus directe par le pouvoir des membres indésirables se faisait plutôt avec la réorganisation. Notamment, par exemple, en 1816, pendant la Restauration, par Louis XVIII, qui a fait revenir le nom Académie, et plusieurs des membres de la classe des sciences, anciens membres de la classe des sciences morales et politiques, a été simplement exclu par cette occasion. Mais quand même, le roi n'osa plus faire revenir la pratique absolutiste pour l'élection, comme choisir un membre entre 3 candidats élus, etc. Mais malgré les ébranlements politiques, l'idée de ne pas intervenir dans le processus de scrutin était quand même établie au fil du temps. Et seule la réorganisation devenait ainsi un outil le plus efficace pour le pouvoir d'intervenir dans l'Institut. Ainsi, en 1830, quand les libéraux ont gagné dans la scène politique, l'Académie des sciences morales et politiques était rétablie avec ses membres anciens. Mais il est aussi à noter que, c'est un point intéressant pour moi, c'est aussi il est aussi à noter que la proximité académique au pouvoir était considérable. C'est-à-dire que c'était vraiment politisé. Les deux académies, il y avait, par exemple, l'Académie française accueillait beaucoup de parlementaires. Et pareil pour l'Académie des sciences morales et politiques. C'est-à-dire que dans ces deux académies étaient vraiment politisées, on peut dire, et plus que politiques académiques pendant le 19e siècle. C'est selon ce que les historiens écrivent. Et donc chaque élection pouvait être un objet de tension politique entre plusieurs factions. Mais il me semble que la période entre le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte en 1851 et la fin du Second Empire en 1870, c'est la période cruciale en ce qui concerne la norme de l'autonomie savante, au moins pour l'élection des académiciens, etc. L'Institut était perçu, en fait, pendant cette période, l'Institut était perçu par le pouvoir politique en tant que le bastion d'une opposition libérale à l'Empire. Et plusieurs études historiques disent que les élections anti-bonapartistes avaient lieu, notamment à l'Académie française et aussi à l'Académie des sciences morales et politiques. Et surtout, ces élections étaient avec l'intention d'irriter le nouvel empereur Napoléon III, et que la situation n'était pas apaisée, n'était apaisée qu'au début des années 1870. Mais le Second Empire, selon Corinne Delmas, je cite, en rejetant les académies dans l'opposition, accroît leur prestige. Elles deviennent le parlement des idées en un temps de vacances de la parole publique. Fin de citation. Donc, je signale cet épisode notamment pour la troisième partie de notre conférence, car il est justement en fait cette autonomie de certains degrés. Plutôt cette autonomie avec la tendance très politique, mais cette autonomie renforcée qui a attiré les attentions des Japonais. Alors, plusieurs documents attestent la présence des académies, soit privées, publiques, dans les régions suivantes, au moins dans les années 1880. Je ne lis pas tous les noms de pays. Donc, la plupart sont des pays en Europe, dans le continent américain. Mais sinon, il y a des établissements dans les zones colonisées ou qui étaient ex-colonies par les européennes. Mais sinon, la Turquie et le Japon, bon, c'est un peu difficile de placer ces pays-là, mais juste. C'est pour dire que dans cette liste, au moins, la Turquie et le Japon ont le plus de points en commun dans le processus de développement de leur académie du style occidental. Premièrement, ils étaient sous l'influence des réseaux orientalistes, circulant avec l'expansion de leur activité commerciale ou coloniale. Et deuxièmement, ils étaient en contact avec les scientifiques américains. Je ne sais pas très bien comment ça s'est passé. En tout cas, il y avait des Américains qui circulaient pendant cette période et en contact avec plusieurs personnages dans les pays orientaux. Mais ces Américains étaient aussi en train de construire leur propre institution de la recherche un peu important le système du vieux continent. Je sais bien qu'il y avait des académies dans l'Amérique du Nord, mais vous savez très bien que l'Académie nationale des sciences aux États-Unis s'était créée dans la dernière moitié du 19e siècle, donc à cette période-là. Avant d'entrer dans les détails sur le Japon, je mentionne brièvement sur le cas de l'Empire ottoman au milieu du 19e siècle. Selon l'étude officielle de l'Académie nationale des sciences de la Turquie, de nos jours, Bon, il y a plusieurs, en fait, il y a plusieurs académies en Turquie maintenant, mais les membres de la première académie du style occidental à Istanbul, Enkumeni Danish, elle est fondée en 1851, et il était en contact d'une part d'une société américaine, American Oriental Society, et l'Académie d'archéologie de Belgique, d'autre part. Mais aussi, il était en contact avec Joseph Henry, le premier secrétaire de la Smithsonian Institute aux États-Unis, et qui a contribué aussi, dans les années 1860, à la fondation. Enfin, il était un des membres fondateurs de l'Académie nationale des sciences aux États-Unis. Et c'est le même Joseph Henry, américain, qui rencontra Ari Norimori, c'est un japonais, le jeune fondateur de la première académie privée de style occidental au Japon pendant son séjour aux États-Unis. Donc il était Mori était diplomate et attaché à la diplomatie japonaise, et il a rencontré Joseph Henry. Et en fait, le réseau américain est important en ce qui concerne l'histoire des académies au Japon. Par exemple, un des amis de Joseph Henry, David Murray, était même invité au Japon en tant que conseiller du ministère de l'Éducation. Et Murray était aussi un membre d'une société orientaliste britannique, Asiatic Society of Japan. Et donc, il a aussi présenté son travail dans cette société britannique au Japon. Et probablement sous l'influence de ces raisons, il a fondé à Tokyo une société privée qui s'appelle Meiroksha en japonais, Société de Médicis, en réunissant dizaines de savants spécialisés aux études occidentales, Yogaku en japonais. C'est-à-dire que ce sont des gens qui savaient lire les langues européennes comme l'anglais, le français et l'allemand. Et la société s'élargissait très vite jusqu'à avoir 30 de membres en un an. Et pour comprendre l'objectif du jeune bureaucrate Mori et ce qui était le style occidental entre guillemets pour lui, je cite les mots de son collègue Shigeki Nishimura, un des membres fondateurs de la même société privée. Donc, je cite, Monsieur Mori a dit, aux États-Unis, les savants fondent une société savante selon leur objet d'étude, travaillent ensemble pour les sciences et arts et contribuent à la culture du peuple pour leur discours public. Dans notre pays, les savants sont tous isolés les uns et les autres, se communiquent peu et nous servir peu au public. J'aimerais voir nos savants aussi organiser une société sur le modèle américain, nord-américain, dans lequel ils pourraient se réunir pour discuter et faire des recherches. Bon, mais bon, même si on ne retient pas tous les éléments de ces perceptions, il est certain que l'implantation d'une série d'activités entières était un objectif pour lui. Fixer une spécialité, fonder une société ouverte à l'adhésion, travailler ensemble et donner occasionnellement des discours publics pour la vulgarisation. Et la combinaison de ces éléments était donc nouvelle, surtout parce que le pays n'avait jamais eu jusqu'alors de culture des conférences publiques, ni celle des débats publics, politique, académique, etc. Bon, donc par exemple, moi je donne une conférence publique, mais ce n'était pas leur culture. Juste, je montre un livre justement consacré au sujet comme comment organiser une conférence par Yukichi Fukuzawa. Et je reviens donc à la société de Médicis encore. Le règlement de la société de Médicis partage de nombreuses caractéristiques avec celui des sociétés savantes anglo-saxonnes. Donc il commence par définir le nom de l'organisation, sa structure, le type d'adhésion et la manière de rejoindre la société. etc. Et donc, ils fixent les cotisations, donc parce que c'est autofinancé. Et les dates de réunion, le processus d'élection, etc. Et parmi ces savants dits occidentalistes, le choix de modèle importé, dans quel modèle de l'Occident qu'on va adopter, était en question. Surtout pour concevoir les établissements scolaires ou intellectuels, y compris les académies. Pour leur base culturelle, etc., en fait, il y a une longue histoire, donc j'entre pas dans le détail, mais juste pour donner le contexte, en fait, il y avait trois courants intellectuels qui se combattent entre eux, c'est-à-dire au plan, sur le plan intellectuel. L'un, c'est donc le camp occidentaliste, et le deuxième, c'est le camp des sinologues, donc qui privilégie l'étude des classiques chinois. Et troisième, c'est le camp des études nativistes, c'est un peu kokugaku, c'est le mot, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent aux classiques japonais et ils sont anti-chinois. Donc vous comprenez bien que parmi ces trois, les occidentalistes ont l'avantage parce que les deux autres se combattent violemment entre eux. Ok. Donc c'était eux qui prennent en fait l'initiative. Et en fait, malgré son inspiration américaine, la plupart des membres de la société de Médicis étaient fonctionnaires, en fait. Certains d'eux ont déjà commencé à travailler pour installer le système de l'instruction publique à la manière française, en fait, napoléonienne, parce que c'était le modèle qui leur semblait assez merveilleux. C'est-à-dire le modèle bureaucratique, centralisé et en structure descendante. Mais ce modèle va rencontrer beaucoup de problèmes, mais bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais en tout cas, donc, à cette période, beaucoup de fonctionnaires étaient francophiles dans leur politique de l'éducation, etc. Mais cette situation ne plaisait pas à Yukichi Fukuzawa, anglophile, et en fait, il avait déjà des expériences pas mal sur ce sujet. En fait, il est le président d'une école privée de l'enseignement supérieur, qui est actuellement l'université privée de Keio au Japon. Donc, il était inspiré donc vraiment par la manière américaine. Donc, dans ses écrits, par exemple, il met l'accent sur l'importance du secteur privé et qui lui semble assurer l'indépendance intellectuelle des savants par rapport au gouvernement. Donc, selon lui, les savants doivent mener leur activité dans le secteur privé en faisant leur propre commerce et publication. Et ses collègues n'étaient pas d'accord avec lui. Et les discussions se croisaient un peu et ils n'ont pas abouti à une conclusion. Mais dans ces discussions, en fait, il faut aussi noter que la menace de la colonisation par l'Occident jette une ombre considérable sur l'ensemble de leur discussion. Par exemple, Fukuzawa dit par exemple que en Angleterre, personne ne doute l'indépendance à l'avenir de son pays. Mais ce n'est pas le cas pour le Japon. Et donc lui, il était vraiment préoccupé par le souci patriotique. Donc du coup, ces discussions étaient un peu, un tout petit peu, c'est un peu difficile, mais c'est-à-dire que il n'était pas à l'état de discuter profondément sur la liberté académique en tant que telle. Par exemple, même s'il commence les discussions par l'indépendance individuelle d'un savant par rapport au gouvernement, il développe ensuite l'argument selon lequel l'indépendance individuelle de chaque citoyen mène à l'indépendance nationale. Donc ainsi, la question de l'autonomie savante est renvoyée dans la discussion un peu plus générale sur l'indépendance du pays, etc. Et Fukuzawa, j'ajoute un autre élément, Fukuzawa il deviendra colonialiste dans la décennie suivante. Il soutient la politique du Japon pour faire l'invasion dans les pays voisins. Je reviens au sujet initial. À l'année suivante, en 1874, la société de Médicis fut obligée de cesser les activités à cause du durcissement politique contre la liberté d'expression. Donc, en fait, cette société n'a duré qu'un an. En fait, c'était très court, ses activités. Et la politique était assez perturbée. Enfin, c'était c'est la période vraiment de confusion et mouvementée. Mais cependant, dès la suspension des activités de la société de Médicis, l'autre initiative commença de la part du ministère de l'Éducation. Et en fait, le ministère de l'Éducation a commencé à considérer la fondation d'une académie nationale. Non, il pensait réaliser une académie nationale et le ministère menait les enquêtes et collecta des écrits liés à ce sujet. Et ainsi, donc, par exemple, le recueil que je montre dans le diaporama était produit en 1880. Et je mentionne ça surtout parce que le plus nombreux de ces pages sont consacrés à la description de l'Institut national de France. Et il a été perçu pour être représentatif parmi les académies à l'époque, par son échelle et par ses activités. Dans les 5 écrits insérés dans le recueil, les 2 sont consacrés à l'histoire de l'Institut. L'un est le rapport par Félix Gustave Adolphe Berson, professeur français d'origine française de la physique attaché à l'Université impériale de Tokyo. Et l'autre, c'était une reproduction de l'article fait par un Japonais qui s'appelle Yuichi Suzuki, qui était fonctionnaire et qui était en contact avec Ernest Renan, linguiste et qui a enseigné aussi au Collège de France et académicien aussi. Et en ce qui concerne notre intérêt sur la liberté académique institutionnelle, Berson marque clairement que, comme c'est dit, aucun candidat n'a jamais été refusé par le président de la République quand il demande son approbation de devenir un membre académicien. C'est-à-dire le résultat de l'élection a été respecté, c'est simplement ce qu'il écrit. Donc ce fait a été rapporté dans le document. Et pour Suzuki, dans l'autre document, il décrit l'anecdote de l'élection de Jules Favre, juriste et journaliste républicain, qui fut élu en 1867 à l'Académie française. Il était anti-bonapartiste, clairement, c'est parce que c'était quelqu'un qui avait failli être attrapé au moment du coup d'État de Bonaparte III, etc. Et donc il s'agit en fait d'une des... En fait, lui n'était pas le seul qui a été comme ça. En fait, il y avait une dizaine d'élections décrites par les historiens comme fronde littéraire de l'Académie française et aussi de l'Académie des sciences morales et politiques. Vous savez que le choix des candidats était fait souvent pour embêter Napoléon III. Mais Suzuki n'explique pas clairement ce contexte. Peut-être qu'il n'était pas vraiment au courant des détails. Je ne sais pas très bien. Peut-être parce que Favre était un cas symbolique et facile, parce que les autres candidats étaient de profil plutôt conservateurs comme libéraux catholiques, orléanistes, des choses comme ça. Et à travers cette anecdote, il écrit l'Institut en tant qu'un des droits, un des trois pôles de pouvoir en France. Par exemple, je cite, selon Monsieur Renan, la France se compose des trois partis, le gouvernement, les académies et le peuple. Et les académies étant chargées de maintenir l'équilibre des pouvoirs. Donc c'est... Cependant, il faut noter que sa description met l'accent plus sur l'incertitude du processus de l'approbation par l'empereur Napoléon III que sur l'impact de la mobilisation de champs littéraires académiques. Bon, il est presque l'heure, mais j'espère que vous tolérez un peu plus. Je continue un peu plus, mais je vais finir bientôt. J'ai marqué exprès dans cette citation plusieurs traductions différentes utilisées en japonais. En effet, le mot « académie » a plusieurs traductions avec les nuances différentes. Dans le recueil en 1880, contient au moins trois sortes de traductions. Académie, translittération du mot académie. Gakushin est ses synonymes qui veut dire le lieu où rassemblent les sages ou les savants. Gakushin, Gakushikaikan, Gakkan, etc. Sinon, Kanlin-in, traduction la plus ancienne, provenant de l'expression en chinois Hanlin-yuan, je prononce peut-être mal, et en fait, qui peut être traduit soit Académie Hanlin ou Conseil Hanlin. Il s'agit d'un conseil secret de l'empereur composé de hauts fonctionnaires lettrés et qui produit les documents et les œuvres des beaux-arts. Et selon ma collègue Yoko Nii, historienne qui travaille sur la Chine, cette traduction fut établie et partagée par les missionnaires jésuites francophones au début du XVIIIe siècle, ou un peu avant. À l'époque de Louis XIV, qu'on a mentionné tout à l'heure, l'association était juste, car le fonctionnement de l'Académie des inscriptions et médailles, belles-lettres à l'époque, n'était pas si loin du Conseil Hanlin. Mais l'évolution rendait la traduction un peu obsolète. Et avec le déclin de la dynastie Qin en Chine, cette traduction sera effacée. On a oublié cette traduction maintenant au Japon. Mais je signale ça parce que quand même, il est très probable, malgré notre oubli de cette troisième traduction, il est très probable que l'idée d'une académie bien intégrée au gouvernement attire même de nos jours certains de nos politiciens, mais aussi enfin cette image peut-être c'était ça séduit surtout les fonctionnaires japonais au 19e siècle. Et un autre écrit inséré dans le recueil en 1880 semble attester leur goût, je crois. En fait, je montre le texte original de la traduction, donc ce n'est pas vraiment fidèle au texte de japonais. En fait, le texte inséré dans le recueil en japonais, c'est la traduction par Hiroyuki Kato. Et en fait, il s'agit d'un extrait par Johann Caspar Brunschli, juriste suisse et qui est peut-être hegelien et un peu oublié de nos jours. Et ça vient de son livre Allgemeines Staatsrecht, publié en 1863. Le juriste ne réserve pas des critiques des académies actuelles en Europe, surtout de l'Institut. Et selon ces critiques, les académies ne faisaient que réunir des individus renommés, un peu individualistes, et elles ne réussissent jamais à promouvoir les sciences et les arts dans la société en général. Selon lui, cet auteur, et avec la, selon la traduction aussi, depuis la libération des sciences de la tutelle de l'Église, il manque une institution organique qui puisse avoir une vue d'ensemble sur les travaux et les communications scientifiques. Donc, selon Bluncioli, il faut en avoir une qui sait étudier et apprécier les rapports entre les sciences et la vie publique et privée des citoyens, dans la mesure où cela concerne l'État et doit assurer la surveillance et diriger il doit diriger les sciences dans la bonne direction. Dans cette vision, la relation entre un académicien et le ministère de la Culture est conçue pour être comme celle entre un conseiller parlementaire et le législatif. Donc c'est vraiment une vision un peu d'une académie intégrée un peu dans l'appareil étatique. Mais Bluncioli, bien sûr, respecte la liberté académique dans le contexte de son époque. Mais il n'était pas satisfait de l'état actuel des académies en Europe. Donc, vous savez que j'ai l'impression que Bluncioli n'était pas peut-être d'accord avec Ernest Renan. Je veux dire, trois pouvoirs, etc. Bon, donc c'est juste pour dire que donc il y a vraiment l'image. L'image d'une académie intégrée à l'appareil étatique qui pourrait attirer les Japonais de l'époque. Et en plus, il y a une autre chose, en fait, étant donné que le pouvoir spirituel équivalent à celui de l'Église n'a jamais existé au Japon à l'époque, en fait, la religion n'a pas vraiment la même place dans la société japonaise. Donc, il est envisageable que les perspectives de Bluncioli aient amené les Japonais à ressentir non seulement la nécessité d'établir une académie, mais également celle d'élaborer une religion influente englobant l'ensemble de la société. Et en fait, c'est ce qui se passera en fait dans la décennie suivante. En même temps que le développement du système académique, le gouvernement japonais procède à l'institutionnalisation de la religion, du shintoïsme d'État. Il est un peu notoire de nos jours. Il s'agissait de l'instrumentalisation de la religion locale liée à la famille impériale. Et cette religion sera mobilisée pour endoctriner la population, surtout sur le régime totalitaire pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je vais finir. Revenons à nos académies. Il y a une académie nationale, Tokyo Gakushikai Kaiin, se fonda en 1879 et il est placé sous la tutelle du ministère de l'Éducation. Les anciens composants de la société de Médicis étaient tous sollicités à devenir ses membres. Et cette académie nationale créée, elle respecte la liberté académique institutionnelle. Je veux dire, parce que sa structure et ses composantes se ressemblent en fait pas mal, en apparence au moins, à celui de l'Académie française. Mais en fait, il y a aussi un mystère de son origine. Mais aujourd'hui, puisque je n'ai pas de temps, en plus, en fait, il y a un jeune chercheur Katsuma Ando qui travaille sur le sujet, donc je n'entre pas dans les détails, c'est lui qui va peut-être découvrir quelque chose. En tout cas, je me contente d'ici de signaler le fait que l'Académie de Tokyo, qui deviendra ensuite l'Académie impériale du Japon en 1906, resteront les premières institutions assurées de la liberté académique institutionnelle au Japon, au moins dans le choix de ses membres. Et parce que les universités impériales fondées dans les années 1880 chez nous, ils n'assuraient pas en fait la liberté académique à cause de la loi qui définit les universités en tant qu'établissement pour la quête des sciences et arts qui contribue à la nécessité de l'État. Donc l'expression, donc voilà, c'était comme ça. L'expression le Parlement des savants que j'ai évoqué au début de cette conférence, il n'apparaît assez tardivement, juste, il n'apparaît qu'après la Deuxième Guerre mondiale, parmi les discussions pour régénérer justement les institutions hantées de la mémoire du régime totalitaire. Donc je vais finir. Pour conclure, donc, à travers cette conférence, j'ai simplement souhaité souligner l'importance de l'histoire des académies, notamment françaises, pour appréhender le processus d'institutionnalisation de la liberté académique et sa transmission. Ben, non seulement la philosophie et des Lumières, mais également les conditions établies par les académies royales ont permis à Condorcet de concevoir son projet idéal d'une académie autonome bénéficiant d'un financement public. L'histoire de l'Institut national au XIXe siècle illustre la difficulté de concrétiser l'idéal révolutionnaire pourtant. Les contemporains et même les historiens de nos jours ne jugent pas nécessairement favorablement ce qui est devenu l'Institut. Je suis désolée de dire ça, mais ils le qualifient parfois de lieu trop politisé ou même chaotique dans certains écrits. Ayant oublié sa mission initiale de promouvoir les sciences et les arts. Toutefois, il est également observé que toutes les propositions de réforme qui paraissaient raisonnables sont aisément exploitées par des régimes de nature autoritaire. Je veux dire que ils ont quand même tenu les principes malgré beaucoup de propositions venant de la part de pouvoir politique. Et en fait, ces propositions de la part de la politique semblent au début raisonnables dans le contexte social, etc. Mais elles sont souvent exploitées, en fait, surtout dans le contexte politique. Et c'est ce que suggère l'action de Napoléon Bonaparte, par exemple. Donc, je crois qu'il est indéniable que l'Institut a su préserver son autonomie intellectuelle à travers les périodes difficiles, à travers les luttes électorales au sein de certaines de ses académies. Il a au moins réussi à consolider les pratiques liées à la liberté académique institutionnelle. Donc, ainsi, le récit de l'admission de Jules Favre à l'Académie française a impressionné les Japonais de l'autre côté du globe. Mais tout en étant attiré par plusieurs modèles, le Japon a fondé sa première Académie nationale en tant que lieu garantissant l'autonomie intellectuelle, au moins. Ce qui représente mieux, en fait, c'est l'Académie qui représentait mieux pour l'idée d'autonomie savante que ces universités, et définie comme étant au service de l'État à l'époque. Juste pour cette dernière ligne, bon, je n'ai pas de temps, mais en fait, aujourd'hui, donc, j'ai essayé de tracer vraiment plusieurs siècles, mais peut-être il manque une approche importante, c'est-à-dire que, en fait, je constate en même temps que l'expansion du réseau académique était avec l'expansion coloniale. Mais donc, il me semble nécessaire d'entreprendre une étude détaillée de l'histoire décoloniale de la liberté académique. Mais c'est nécessaire, c'est ce que je constate maintenant, mais ce sera peut-être envisagé à une autre occasion. Donc aujourd'hui, j'ai utilisé beaucoup de temps. Je vous remercie vraiment de votre attention.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.